Nous arrivons à la cinquième séquence de notre programme spécial de cette nuit consacrée à une évocation de la nuit du 17 octobre 1961 en hommage aux victimes de la répression policière des manifestations pacifiques de ce jour-là. Cette séquence a été réalisée par l'émission L'ombre sur la mesure de Radio Canut. Elle vous propose une vision récente des événements du 17 octobre 1961 offerte par des interprètes de la nouvelle génération d'artistes préoccupés de la chose sociale, politique et historique.
L'ombre sur la mesure à la pointe d'une écriture, considère-moi comme une pompe.
Noyade, torture et déportation frapperont aveuglément les Algériens de Paris et de sa banlieue. Partout aux portes de Paris, aux bouches de métro, la police traque l'arabe avec une férocité sans nom. Dans les commissariats, on humilie, on tue même. Au gymnase Japy, toute la nuit on torture. De ce pont même, des Algériens sont assommés et jetés ligotés dans les eaux glacées de la Seine.
Et par la suite, on a passé la nuit dans le parc de Beaune. Et la semaine d'après, enfin le vendredi d'après, la police, les gendarmeries, les CRS ont débarqué dans cet hôtel qui faisait au moins 100 personnes qui habitaient là. Et moi, j'ai regardé par la fenêtre, ils ont tiré sur quelqu'un qui faisait ses ablutions. Ses ablutions, et là, ils l'ont tué, quoi.
D'une manifestation pacifique regroupant 30 000 Algériens venus réclamer leur dignité, venus réclamer l'égalité, à Paris, on assassina des dizaines, voire des centaines de personnes. Ici même, sur ce pont Saint-Michel, de nombreux témoins ont vu des policiers matraqués et jetés dans la Seine des Algériens. À quelques mètres de nous, au sein de la préfecture de police que l'on voit derrière, des dizaines de travailleurs ont été assassinés et jetés dans la Seine. Sous les grands boulevards, au pont de Neuilly, autour de Paris, sous les ponts d'Anières, de Courbevoie, on a retrouvé des dizaines de cadavres. Depuis hier, dans une dizaine de municipalités de la région parisienne, on commémore cette date. On commémore cette date parce que nous réclamons la justice. Nous réclamons cette justice qui nous est dû depuis toutes ces années. Non vengeance, non repentance, seulement la justice. Aujourd'hui, nous sommes 44 associations, syndicats, partis politiques à avoir signé cet appel. Nous sommes aussi avec de nombreux élus de Paris et de la région parisienne venus témoigner de leur soutien et de ce combat pour la dignité. Je voulais dire que à partir d'aujourd'hui va s'ouvrir la bataille du 50e anniversaire. Voilà, nous avons une année devant nous pour faire comme ce qu'on a fait en 2001, comme ce qu'on a fait en 91, faire descendre de milliers et des milliers de nos concitoyens dans les rues de Paris pour réclamer enfin la reconnaissance de ce crime d'État. Dans quelques jours, et mes collègues le diront, le gouvernement va se livrer à une nouvelle provocation par rapport à la mémoire de cet événement. Ce gouvernement, par la loi du 23 février 2005, a institué une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie sera rendu officiel et public dans deux jours, le 19 octobre. C'est une provocation. C'est une honte pour la République. Nous allons manifester pacifiquement. Nous allons protester pour dire que dans ce pays, tous les citoyens ont droit à la mémoire et pas les nostalgiques de l'Algérie papa. Je vous remercie d'être venus nombreux une fois de plus pour ce rassemblement. Nous allons avoir besoin de vous tous l'année prochaine. Nous allons avoir besoin de vous tous parce que dans de nombreuses villes, pas seulement à Paris et en région parisienne, mais à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, à Marseille, il y aura des commémorations du 17 octobre. Ce 17 octobre appartient à tous les citoyens de ce pays et on espère faire un grand événement pour ce 50e anniversaire.
Bonjour auditeurs de l'Ombre sur la Mesure, bonjour Thibault, bonjour Jean-Pierre. Est-ce que les micros fonctionnent au moins ? Attends, on va vérifier ça.
Ouais.
Bon, déjà, le tien, Thibaut, c'est bon. Et celui de Jean-Pierre, ça devrait être bon. Voilà. Donc, émission spéciale, comme vous l'aurez compris, un jour du 50e anniversaire, du triste anniversaire du massacre des Algériens, de la manifestation organisée par le FLN, manifestation pacifiste, et du massacre d'une dizaine, voire d'une centaine d'Algériens en plein Paris. On a tout simplement fait le choix de faire une émission hommage. Bon, il y en a eu beaucoup cette semaine, il y en aura encore la semaine prochaine. Et on va aborder ça en musique, en cinéma et puis en débat. Voilà, tout simplement.
Ouais, on va aborder justement le thème sur les différents films qui sont sortis à cette occasion, qui vont sortir à cette occasion, sur les différents artistes, beaucoup d'artistes de rap qui ont justement traité le sujet, puisqu'ils sont particulièrement touchés par cette commémoration. Et puis, on va aborder l'aspect historique, mémoriel de la chose avec Jean-Pierre. Donc voilà. Et pour commencer, on va peut-être rappeler un peu le contexte, enfin le contexte de l'époque, ce qui s'est passé en deux trois mots. Donc il y a eu une manifestation organisée par le FLN, en fait, qui voulait répondre à un couvre-feu raciste imposé par la préfecture de police de Paris, qui interdisait à toute personne d'origine maghrébine de sortir le soir et donc de rentrer de son travail, de mener une vie digne. Et suite à ça, le FLN a décidé d'organiser une manifestation pacifiste, puisqu'il y avait la consigne claire auprès de tous les cadres du FLN et de tous les militants de défiler sans armes. Il y avait même des femmes et des enfants. Ils étaient très nombreux, on parle de 20 000, 30 000. Ils sont partis d'un peu partout dans Paris. Il y en avait qui sont arrivés vers le pont de Neuilly, il y avait vers l'Opéra aussi, si je me souviens. Et ils ont été des centaines à être assassinés par la police et par le tristement célèbre préfet de police Maurice Papon de l'époque, qui a voulu mater, et s'est entêté à mater cette manifestation. La police a tiré donc à balles réelles sur des gens désarmés, sur des femmes et sur des enfants, et ils ont jeté les cadavres dans la Seine. De nombreux Algériens ont été tabassés dans la cour de la préfecture de police. Et il y a eu les consignes après de taire l'affaire, et la presse de l'époque, une partie de la presse de l'époque en a parlé. Il y avait même, je crois, un journaliste qui devait être député aussi. J'ai vu cet article sur Rebellion l'autre jour, qui avait interpellé Papon. On en reparlera plus tout à l'heure, mais dans le film Nuit Noire d'Alain Tasma, justement, on revoit cet homme-là. J'ai mangé le nom, je me rappelle plus. Et il interpelle justement Papon sur cette question-là. Donc il y avait déjà à l'époque des voix qui se sont soulevées, mais malheureusement des voix trop peu nombreuses, et 50 ans après la chose est encore tue, et l'abcès n'est pas crevé, malheureusement.
Voilà, donc on va commencer par un ou deux morceaux actuels, puisque c'est du rap francophone, et notamment un état des lieux de cette histoire sur l'album Table d'écoute de Médine. Voilà, c'est parti, on s'écoute ça. Elle s'appelle 17 octobre 61, tout simplement.
C'était chill. hier, c'est pour demain. 17 octobre 61, rappelle-toi bien, fils d'Algérien. Dans la scène, on noie les Algériens. Le prix de la résistance, les cadavres dans ton existence. Le passé se trouve bien sûr, jambes sur la distance. Aussi les méandres qui créent dans le présent avec persistance. Fils d'histoire grandit à l'ombre des vérités bâchées. Pas pondu de Jean-Moulin, chaque sortie de café caché. Bataille d'Alger, de Paris, même barbarie. Les torturés des sous-sols bavent sur les uniformes marines. À la mémoire qu'on oublie, 7 octobre 61. Rappelle-toi bien. Manifestation de la paix, massacre en pleine capitale. Déportation en série, France coloniale. OAS, colonel, généraux, massu, Osarès. Tricolore rouge sang des allées de Nanterre aux Aurès. Quand la population prêtait main forte aux mains de port. 135 ans de crimes et torture, a pissé son corps du Félaga. Quand l'indépendance était la guerre. Et vos pères dans le rôle des assassins, c'était hier. C'est octobre 61, un peuple résister. Quand un autre volait la terre pour y exister. C'est octobre 61, l'état français assassine. Sur les quais de Seine, a rien de sourire, reste assis. C'est octobre 61, un jour de plus où sang a coulé. Un jour la police de Paris a couru pour tuer. C'est octobre 61, rappelle-toi bien. Il n'y a pas si longtemps dans ce pays on noyait l'Algérien. À ce qu'ils ont oublié de nous apprendre. Dédicace Abdelkader. Fondation Abou Bachir, fils du béton national. Sur quel passé construire l'avenir, hein. Nos destins communs. Camp de concentration improvisé, stade Coubertin. Certains ont lutté à nos côtés, les hommes libres se livrent. Soi-disant 200 victimes à leur lit, sur leur livre. Les fils des hommes patraquent, sous les coups de matraque. Les rats traqués, la mélodie des corps qui craquaient. Accueillis par les balles sur le pont de Neuilly. Quand les potes venaient édenter les femmes dans les entrées. 7 octobre 61, un peuple résistait. Quand un autre volait la terre pour y exister. 7 octobre 61, l'état français assassine sur les quais. Scène, rien de sourire, reste assis. Octobre 61, un jour de plus où sang a coulé. Un jour la police de Paris a couru pour tuer. Octobre 61, rappelle-toi bien. Il n'y a pas si longtemps dans ce pays on noyait l'Algérien.
Voilà, donc on vient de s'écouter Fils de béton avec le morceau également 17 octobre. Et on va s'écouter tout de suite Made In sur l'album Table d'écoute qui était juste avant sur ma playlist et que je suis désolé mais je vais passer tout de suite. Voilà, Fils de béton et là maintenant c'est Made In sur le même thème.
Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'or dur. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des employeurs, loin de l'inactivité, peur algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre tannée. Accosta Marseille, port autonome, des fausses haines, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement, quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, monsieur l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon. La métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile.
Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10.
Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre. Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leur centre giratoire. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sur pilotis. Nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure, dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices, le fleuve glace, y'a l'embûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer, aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants soifs. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Des cas des eaux pour les gens des humains eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux eaux. D'étranges nénuphars flottent sur la Seine. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne. Les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules. 132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoilé croissant. Devoir de mémoire grandissant, Djezaïr.
Ouais, bah voilà, il y a eu un résumé par Médine de...
Les faits en musique.
De, voilà, de la guerre d'Algérie jusqu'au métro de Charonne. Jean-Pierre, tu, pendant l'intermède musical, tu voulais rappeler quelque chose sur le contexte historique.
Oui, on voulait rappeler le contexte, c'est-à-dire qu'en fait, cette manifestation du 17 octobre, c'était pratiquement 6 mois avant la conclusion des accords d'Évian, c'est-à-dire la fin de la guerre, mais c'était aussi plus de 6 ans après le début de la guerre. Quoi. Donc c'est une période où les tensions étaient maximales entre ceux qui voulaient encore garder l'Algérie française et qui sentaient que ça leur échappait, et puis le FLN qui lui voulait affirmer sa force, qu'il a fait d'ailleurs pour aboutir à des négociations. Ça explique un peu le contexte de cette manifestation. Il y aurait eu un tel appel à une manifestation similaire 4 ans avant, c'est sûr, ça aurait pas marché et il y aurait pas eu grand monde, quoi. Mais à ce moment-là, le FLN en France était fort. Faut dire aussi qu'il y avait énormément d'Algériens en France, hein, qui travaillaient, qui étaient venus là pour travailler. À l'époque, on parlait pas trop de chômage, et tous ces gens venaient et habitaient le plus souvent dans des bidonvilles. Hein. Il y aurait tout ça à Nanterre en particulier. Donc, le FLN très organisé, structuré là-dedans. Quelquefois, les gens n'avaient pas trop le choix d'obéir aux ordres du FLN, hein, mais c'était comme ça et ça devait aboutir à la libération de l'Algérie. Quoi. Donc voilà le contexte dans lequel tout le monde est venu à la manif. Ceci dit, les mains nues, sans armes, c'était une manif pacifiste de protestation. Ce qui est d'autant plus odieux de la réaction de la police française sous les ordres de Papon d'avoir voulu réprimer avec une violence incroyable cette manif. Il y a les morts, mais il y a tous les blessés, il y a tous les coups distribués, tous les gens qui ont été enfermés 3-4 jours sans rien manger. Enfin, il y a une multitude de témoignages de situations horribles qui ont été vécues par des gens qui venaient pacifiquement protester contre un couvre-feu unique. Quoi.
Les médecins qui venaient après pour soigner n'avaient pas accès aux soins, n'avaient pas accès aux médicaments, n'avaient pas accès à tout le matériel nécessaire pour pouvoir soigner des gens qui étaient blessés par balles, qui avaient été roués de coups. Donc voilà. Et en fait, dans le contexte aussi de l'époque, comme tu disais, la police française exaspérait et poussait à bout toute la population maghrébine, algérienne qui vivait sur Paris et ailleurs, et c'était sans cesse des agressions policières, des humiliations. C'est vrai que c'était un climat d'une extrême violence, d'une violence pour l'époque.
Oui, violence partagée, parce qu'il y avait aussi l'OAS, hein, c'était aussi une des raisons de la mise en place du couvre-feu, c'est que soi-disant il y avait des attentats du FLN, mais il fallait bien que les militants FLN se défendent contre les attentats OAS, à la fois sur des personnes ou sur des habitations, et c'était très tendu, quoi. Le couvre-feu, soi-disant, devait résoudre le problème de la sécurité dans Paris, tu parles, ça n'avait pratiquement pas rien à voir, quoi. Par contre, c'était pour empêcher le FLN d'agir et de circuler, et puis les gens de vivre normalement, comme on l'a dit, quoi. Parce qu'on ne pouvait plus rentrer du boulot le soir ou y aller tôt le matin, impossible à vivre, quoi.
Ouais, non, mais c'est vraiment, quand j'ai vu le film Nuit Noire d'Alain Tasma, c'est le premier sentiment. À la première vision du film qui ressort, c'était ce climat justement de très raciste et très violent de la part de l'OAS et puis justement de la police française, de la police parisienne vis-à-vis de tous les Maghrébins qui soient au FLN ou qui ne soient pas d'ailleurs
tout musulmans
étaient les Tunisiens, les Marocains. Il y avait vraiment un racisme profond et très ancré et voilà. Surtout que
ouais, et puis là c'est vraiment du racisme, parce que ces Algériens étaient français. Alors certes, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes droits en matière de représentation de députés, électorales et autres en Algérie qu'en France, mais ils étaient de nationalité française. Donc quand on mettait un couvre-feu, c'était un couvre-feu pour les Arabes. C'était une mesure purement raciste.
Voilà, officiellement raciste. Mmh. Alors, ils avaient tenté de maquiller ça... ils avaient tenté de maquiller ça salement sous quelque chose d'un peu plus, mais c'était officiellement une mesure raciste d'État.
C'était le couvre-feu au faciès, quoi, hein, complètement.
Et je sais que les violences, les violences policières ont été notamment exaltées par le fait que, au tout début de la manifestation,
il y a eu des fausses informations.
Des informations circulaient comme quoi, lors de cette manifestation, des gens avaient des armes, des gens avaient une volonté de violence à l'encontre des
des Français entre guillemets, et également qu'il y avait eu des morts du côté de la police.
Ce qui est faux, ouais.
Chose qui est absolument complètement fausse. Et donc tout ça a favorisé, après, en plus de ce climat, a favorisé la barbarie, parce que finalement on peut. Enfin, il y a que ce mot qui me vient à la bouche, cette barbarie policière, tout simplement.
Papon avait surtout demandé que cette information-là ne soit pas démentie auprès des forces de police qui étaient sur place et qui étaient en faction un peu partout dans Paris. Donc ça a renforcé la haine et la violence auprès des à l'intérieur des forces de l'ordre. Voilà.
Tu nous parlais de Nuit Noire.
Oui, bah on peut parler de Nuit Noire, le film d'Alain Tasma qui est sorti en 2005, qui était initialement prévu pour la télévision et qui finalement est sorti au cinéma. Film avec Clotilde Courau, avec Atmen Khelif aussi. Et voilà, c'est un film qui est assez bien fait puisqu'il reprend le contexte historique. Comme tu disais, on voit que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens vivaient pour la plupart dans des bidonvilles à Nanterre notamment. Et voilà, et ça montre en fait l'escalade de la violence. D'un côté, on suit un flic de l'époque, de l'autre côté, on suit des militants du FLN. Il y a des journalistes aussi. On suit ces différents parcours à cette époque, ça part de mi-septembre jusqu'à cette triste nuit, et on voit l'escalade de la violence, l'escalade des tensions qui monte, et voilà, c'est assez bien fait puisque historiquement je pense que c'est assez, assez juste, et ça donne une vision globale de la situation à cette époque.
Voilà.
Ouais, c'est vrai, c'est pas un documentaire, hein, c'est une fiction, puisque les personnages, certains personnages, je pense, sont fictifs, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et tu disais tout à l'heure, pour ceux qui n'avaient pas trop le choix, justement, d'adhérer au FLN, il le montre un petit peu à ce moment-là, et il montre aussi justement l'importance de l'OAS et des racistes au sein de la police française de cette époque, et malheureusement aussi d'aujourd'hui.
Puisqu'on dit aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de citer ce petit papier qui était dans Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que Monsieur Fromentin, qui est le nouveau maire de Neuilly, hein, l'ancien étant devenu président de la République, comme chacun sait, mais je pense qu'il est dans les mêmes dispositions d'esprit, a interdit que demain il y ait une manifestation commémorative sur le pont de Neuilly, là où il y a eu un certain nombre d'exactions policières. Donc la manifestation va se replier de l'autre côté du pont, sur la commune de Puteaux, dans un autre endroit. Donc on voit bien que 50 ans après, il y a des choses qui n'ont pas bougé d'un pouce.
Ben voilà, c'est ça en fait, c'est qu'au sein de la classe dirigeante du pays, il y a quelque chose d'un état d'esprit qui n'a pas évolué du tout, et c'est assez dramatique quand on sait l'importance qu'a l'héritage, qu'a l'histoire dans la vie actuelle, dans la vie quotidienne, dans la vie d'aujourd'hui, et c'est incroyable que 50 ans après il n'y ait pas des voix au sein de l'État pour prendre cette responsabilité morale et reconnaître ces exactions de l'époque. Et je pense que ça serait de bon augure de tenir ce genre de propos, puisque c'est inadmissible que 50 ans après on ne reconnaisse toujours pas c'est ce type de violence, qui était des violences d'État complètement.
Et vous me permettez de faire une extraordinaire transition, puisque on va écouter un morceau, enfin très bref morceau, parce que des témoignages des responsables, on en a pas eu énormément comme on le disait, mais un petit morceau d'une interview de Maurice Papon, et ensuite enchaîné par un petit témoignage également lors d'une commémoration l'année dernière sur le pont Saint-Michel à Paris, donc pour les 49 ans, puisque toutes les années un peu partout des associations se réunissent pour ça. On s'écoute tout ça et ça va nous faire une transition sur la deuxième partie de l'émission.
Face à l'histoire, face à vous-même, vous êtes content de vous?
On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais.
De l'extermination des juifs et qui a été ensuite le ministre de Raymond Barre et de Valéry Giscard d'Estaing,
C'est cet homme-là qui fait un trait d'union entre les pires souvenirs des années 40, ce que les Algériens ont vécu à Paris en 1960, et ce qui a été partagé sans l'ombre d'un scrupule par les équivalents des gouvernants actuels. Alors en effet, nous ne sommes pas dans les années 40, mais quand on entend parler de distinguer les Français d'origine et les naturalisés, quand on entend faire la chasse aux Roms, quand on voit des fichiers ethniques officialisés et légitimés, on se dit qu'on est peut-être déjà dans les années 30 et qu'en tout cas, nous sommes sur la même logique que celle qui a produit ces morts.
Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Voilà, autre témoignage en musique contemporain, donc avec le morceau des Têtes Raides sur l'album Chamboule Tout. Voilà, donc le morceau qui s'appelait Dans la gueule du loup et qui est tout simplement un poème de Kateb Yassine, donc voilà, poète philosophe algérien qui est mort il y a quelques années. Voilà, que les Têtes Raides ont mis tout simplement en musique. Et en album, donc sur l'album Chamboule Tout, comme je le disais. Après, il y en a d'autres, bon, qu'on n'a pas assez d'une heure pour en parler, mais il y a toujours trop peu d'artistes qui se sont engagés là-dessus, mais il y a notamment aussi un morceau de La Tordue, de nombreux morceaux de La Rumeur qu'on essaiera de passer si on a le temps tout à l'heure. Voilà. En matière de choses contemporaines, on peut
ouais.
parler de quelques films.
Ouais, il y a donc le film d'Alain Tasma, Nuit Noire, comme on a dit. Après, il y a deux sorties mercredi. Il y a Ici, on noie les Algériens, un documentaire de Yasmina Hadi qui relate effectivement cet épisode. Voilà, la cinéaste met en lumière une vérité encore taboue, mêlant témoignages et archives inédites, histoire et mémoire, passé et présent. Le film retrace les différentes étapes de ces événements et relève la stratégie et les méthodes mises en place au plus haut niveau de l'État. Manipulation de l'opinion publique, récusation systématique de toutes les accusations, verrouillage de l'information afin d'empêcher les enquêtes. Voilà, ça c'est pour le... Donc sorti mercredi 19 octobre. Et un autre documentaire qui ressort en fait, enfin qui sort, ouais, qui ressort, Octobre à Paris de Jacques Panigel. C'est un film de 1962 et c'est un documentaire qui avait été tourné clandestinement, qui a été censuré pendant plus de 50 ans, donc autant vous dire que j'ai pas pu le voir, et qui est toujours invisible, et qui retrace les événements du 17 octobre 61. Voilà. Et par contre, toi, Jean-Pierre, tu l'as vu.
Oui, c'est un peu anecdotique ce que je vais vous dire, mais je me souviens l'avoir vu. Il n'y a pas beaucoup de films dont on se souvient 45 ans après, ou 40, je ne sais plus l'année exacte, c'était pas 62, ça devait être 63 ou 64, mais pour, ça restitue quand même le climat dans lequel on était. Hein. Le film était interdit. Il avait été projeté dans un café de résidence universitaire à l'appel donc de l'UNEF. C'était pratiquement, il n'y avait pas d'affiche, hein, c'était les gens qui étaient dans la mouvance progressiste étaient informés, et je me souviens, on avait fait ça dans le hall d'entrée, la projection, et les gars se méfiaient tellement qu'ils amenaient les bobines une par une, et quand ils amenaient une bobine, ils en ramenaient une autre, parce qu'on s'attendait à tout moment à ce que les flics débarquent et viennent piquer les bobines, quoi. Ça devait être, je pense, un groupe trotskiste l'un ou l'autre qui avait organisé ça, mais pour dire dans quel 2-3 ans après, comment encore on avait peur de ce genre de document. Et bon, je me rappelle plus de tout le contenu du film, c'était du documentaire, c'était des images mal foutues et tout, mais on voyait très bien les gens se faire tabasser, on voyait des choses comme ça, et bah, c'était à l'époque c'était une forme de lutte déjà de projeter ça, de porter à la connaissance du public qui ignorait à peu près tout de ces événements, et c'était bon, ben voilà, ce film, je sais pas s'il est jamais sorti un jour, c'est peut-être sa première sortie en public, 50 ans après, vous rendez compte, pour des documents, c'est inimaginable, mais c'est comme ça.
De toute façon, ils mettent censuré pendant plus de 50 ans, donc ouais, de toute manière, c'est ça, il a jamais
moi je pensais jamais le revoir, mais finalement le voilà qui réapparaît, ouais, c'est très bien.
C'est le film de La Talente, qui est pour leur rendre, qui ont essayé de procéder à la sortie en salle de ce film, sachant que le cinéaste est décédé le 12 septembre 2010, hein, Jacques Panigel, voilà. Donc, mercredi 19 octobre pour ces deux documentaires. Voilà.
Qui sortent en même temps cette semaine, donc.
À la commémoration, voilà, du 17.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre, et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares, des ponts armés aux trousses qui d'une pente plongent la course dans le caniveau du non-lieu. Un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux, ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et d'opprobre, ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usé par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
La rumeur donc avec le morceau Pas de justice, pas de paix sur les inédits donc 97-2007, voilà, que vous retrouvez sur ce double album qui est excellent. Pas de justice, pas de paix, voilà, ça serait un petit peu la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire insister sur je sais pas, les conséquences que ça peut avoir, ces genres d'événements, le fait qu'on occulte, comme on le disait, pendant 50 ans, ces faits historiques, tout simplement, qui appartiennent à l'histoire de France, autant que tout le reste qu'on nous apprend en longueur de manuel scolaire. Donc, voilà, quel bilan pourrait faire, quelles questions faut se poser, comment on peut réagir là-dessus?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le début de l'émission. De toute manière, c'est toute la guerre d'Algérie qui, dans son ensemble, est pas aujourd'hui reconnue, et les exactions qui ont été faites là-bas aussi, qui est pas où il y a pas la lumière qui est faite entièrement sur cet épisode tragique de l'histoire de France. Il y a qu'à ouvrir un manuel scolaire. De toute manière, c'est aussi simple que ça. Moi, ma terminale, elle passe si loin que ça, et j'ai mémoire que la décolonisation, on la passe à vitesse grand V, que ce soit de l'Indochine au Maroc, à l'Afrique noire, voilà. Et si on passe à juste titre, enfin, c'est pas la question, mais énormément de temps sur la Seconde Guerre mondiale, qui mérite aussi autant d'attention, mais la décolonisation, où finalement le rôle de l'État français est très obscur dans certains cas, on y passe un temps très rapide. Moi, j'ai souvenir d'avoir lu un bouquin qui s'appelait De l'esprit des peuples. Tu te rappelles?
Le mépris des peuples.
Le mépris des peuples, voilà. Au mépris des peuples de Versace, ouais. Ou un truc comme ça. Qui est mort, qui était conseiller municipal à Saint-Fond, si pareil, je me rappelle bien.
Qui était membre d'une association
sur Villeurbanne. Aussi, voilà, ouais. Et c'était un mec du coin, et en fait, il avait fait un livre sous forme c'était un spécialiste de la France-Afrique, il avait fait un livre sous forme d'interview par un autre mec qui l'interviewait. Et j'ai, par exemple, un nom comme Focard, c'était un nom que j'ai découvert à ce moment-là. C'est un nom que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai quand même le bac, j'ai fait des cours d'histoire jusqu'au bac, j'écoutais assez en histoire, on va dire, et c'était un nom qui, je me rends compte, a eu une histoire très importante à cette période-là, un rôle très important, et c'était un nom que je ne connaissais pas du tout. Je savais pas que c'était le monsieur France-Afrique de Gaulle.
C'était un homme de l'ombre, hein. Voilà. C'était une barbouze en chef, quoi.
Voilà. Mais voilà, c'était quand même, et à cette époque, il a fait la pluie et le beau temps sur l'Afrique et sur, et c'est incroyable que voilà, on sache pas ce genre de choses.
Il faisait là où on lui disait de faire. Hein.
Oui, mais on ne sait pas forcément, quoi. Et bon, voilà, c'est juste ça.
Mais si on compare quand même la situation à 61, moi je pense quand même que, pour avoir, j'étais très jeune, mais quand même vécu les deux, les Algériens ont quand même, en France, souvent ils sont devenus français aussi, ils y étaient, ils ont récupéré quand même de la dignité et de la reconnaissance, malgré qu'il y ait un Front National à 17%, malgré qu'il y ait un ancien ministre de l'Intérieur, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs, ouais. Malgré des trucs comme ça, je pense que, ils sont, par l'ensemble de la population, beaucoup, je parle pas de la petite minorité qui a toujours été antiraciste et tout, mais ils ont quand même une place, et c'est bien normal, et c'est bien la moindre des choses, et ça devrait aller en s'augmentant quand ces gens-là, d'origine algérienne ou autre, entreront dans la fonction publique, dans la police, dans tout ce qu'on veut, dans les médias. Il va bien falloir que la France, un petit peu comme les États-Unis, se cosmopolitise un peu, et la France ne va plus être ce qu'elle était il y a un siècle, c'est normal, le temps passe, et c'est vers cette coexistence entre toutes les cultures et les origines qu'il faut aller, dans une reconnaissance et une bonne entente mutuelle, ce qui est aussi déjà en place dans un certain nombre de lieux sociaux.
Oui, le tableau adressé n'est pas entièrement mauvais et entièrement noir. C'est sûr qu'il y a du bon. Il y a des certains endroits, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dans la grande majorité, majorité cas. Moi, ce qui me choque toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la reconnaissance officielle. Moi, c'est ça que j'attends et que j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est cette reconnaissance.
Il y a des forces opposées à l'œuvre. Voilà, hein. Tu as vu, il y a pas si longtemps, quand ils ont voulu faire cette reconnaissance du rôle positif de la colonisation, exemple, il y a toujours en face ces gens qui s'opposent et qui sont revanchards là-dessus et qui restent racistes. Ben, c'est le combat à mener, quoi.
Et voilà.
Moi, ce qui me choque, si vraiment il y a quelque chose qui ressort de cette émission, mis à part l'oubli et le fait que les responsables soient identifiés, mais c'est surtout le fait que, évidemment, que la communauté algérienne et maghrébine et toute la population issue de l'immigration est plus reconnue qu'effectivement il y a un siècle ou il y a 50 ans. Mais ce qui continue à me foutre en l'air à chaque fois que je mets le nez dans les médias, c'est toutes ces phrases complètement décomplexées des dirigeants, des membres du gouvernement, des ministres, et voire même des présidents qui sortent des phrases totalement c'est ça, décomplexé, c'est-à-dire que ça choque plus personne. Enfin, moi, je serais plutôt pessimiste là-dessus, en me disant que avant, personne se permettait, enfin, du moins, on se le permettait moins. Et il y a qu'à voir, toutes les semaines, il y a des déclarations choc de personnes qui nous gouvernent. Alors, ça concerne pas forcément la population maghrébine ou algérienne précisément, mais c'est le discours qu'on entend il y a 6 mois tous les jours sur les Roms, sur les sans-papiers en général, les charters, les renvois à la frontière, enfin toutes ces choses là. Mine de rien, on n'a pas avancé.
Ben c'est dans son, puis après, bon, ça c'est de dire, c'est dans son ensemble. La droite électoralement, elle a toujours fonctionné sur le fait de monter les gens contre les autres. C'est les Français d'origine européenne contre les Français issus de l'immigration. C'est les travailleurs de la fonction publique contre les travailleurs du secteur privé. Elle a toujours fonctionné comme ça, en divisant, et elle s'est souvent fait élire de cette manière-là. Donc ça, c'est vrai que ça a toujours été. Par contre, alors après. J'ai quand même une pointe d'espoir dans une génération, une jeune génération qui, enfin, tu t'en rappelles, et tu le sais, quand on est allé à l'école, moi j'ai pas eu de classe où on n'était pas complètement métissé. Il y avait du métissage partout, donc on a appris à grandir et à vivre avec des gens issus de cultures différentes, tout ça, et dans la grande majorité des cas, ça s'est quand même à chaque fois super bien passé. J'ose espérer que la génération, que nos générations, celles d'après, que ça se passera mieux dans son ensemble. On n'a pas les stigmates de cette période d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale. On a appris nous depuis tout petit à être avec des Maghrébins, des Africains, des Asiatiques, voilà.
Moi, c'est vraiment ce point-là, quoi. C'est le discours des gouvernants, tout simplement, en fait, puisque ça influe mine de rien sur l'état d'esprit général. Et je discutais encore ce week-end avec des gens, des amis à moi qui ont pas connaissance de ça et qui ont pas conscience de certaines choses, et au final pour des gens qui forcément, parce que je comprends très bien qu'on s'y intéresse pas forcément ou qu'on ait d'autres choses à penser ou à faire, mais pour ces gens-là, la seule voie
c'est la voie officielle.
Bah ouais, c'est la voie officielle, et c'est celle c'est la plus fréquente et la plus populaire, entre guillemets, c'est celle que tout le monde entend. C'est là-dessus que
t'es pessimiste.
Que je suis plus indigné, quoi, en fait, tout simplement.
À moins que Jean-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être.
Non, mais qu'on avance dans le programme, je sais pas quand tu en es.
Juste pour finir, vu qu'on parle de ça et de qu'est-ce que va faire cette jeune génération sur tout ça, de cette période-là, de cet héritage, il y a un film que je conseille, qui à la base est pas forcément, c'est un thriller en fait, c'est le film d'Anokyo qui s'appelle Caché, et qui sur ce film là mérite bien sa réputation de père fouettard du cinéma européen, puisqu'en fait, bon, pour faire un petit speech vite fait de l'histoire, on l'a vu ensemble, il nous a beaucoup marqué tous les deux avec Chrono. Bon, déjà sur d'un point de vue purement esthétique, c'est une mise en scène voilà,
avant
énorme.
Toute chose, c'est un excellent
avant
thriller.
Toute chose, c'est un excellent thriller, un super film. Il y a une mise en scène terrible. Le scénario est juste au poil, il est parfait. Il y a rien.
Les
acteurs sont très bons. Auteuil de Juliette Binoche. Voilà. Enfin, d'un point de vue purement esthétique, il y a des visions subjectives, des plans subjectifs qui sont super, super bons. Voilà. C'est exceptionnel d'un point de vue esthétique, mais Haneke n'a plus rien à prouver dans ce domaine-là. Juste, voilà, en fait, l'histoire, c'est Daniel Auteuil qui est bien implanté dans la vie bourgeoise parisienne. Il anime une émission de télévision littéraire. Et en fait, un beau jour, lui et sa femme, qui habitent dans le 13e arrondissement de Paris, reçoivent des vidéos où, en fait, quelqu'un les filme en cachette pendant des heures. Et voilà, ces vidéos l'intriguent, et puis vont l'amener à aller chercher quelque chose, d'où le titre du film Caché, qui est bien caché en lui. Et en fait, il a, quand il était enfant, fait quelque chose de pas glorieux du tout. Je vais pas le révéler parce que sinon ça révélerait la substance du film. Mais voilà, de peu glorieux. Et en fait, Haneke met en parallèle cet épisode individuel pour de cette personne-là qui a caché, qui a un sentiment de culpabilité qui est très enfoui en lui. Et il met ça en parallèle avec le sentiment de culpabilité de la société française vis-à-vis de la communauté maghrébine, de la communauté algérienne, suite aux événements du 17 octobre. Et puisque l'événement dont Auteuil renfoule une partie de la culpabilité, même totalement la culpabilité, a un lien avec le 17 octobre. Donc Haneke, en fait, en gros, personnifie l'institution française dans la personne d'Auteuil, et c'est quand les autres personnages s'adressent à Auteuil,
il y a un double discours
où il s'adresse en gros à la France, à la France.
C'est-à-dire vous prenez les paroles, on les met sur, enfin oui, d'un côté on
voilà.
met France.
D'un côté c'est un film de fiction, voilà. Et d'un autre côté ça peut être un discours politique,
exact.
Où on s'adresse à l'État français en lui disant, en le mettant devant ses responsabilités. Le personnage de Binoche joue justement cette partie de la population française qui justement veut crever l'abcès et veut connaître la vérité et savoir ce qui s'est passé, et Auteuil s'évertue à lui cacher et à refouler sa culpabilité. Voilà.
Il
y a notamment aussi à la fin un clin d'œil qui est assez bien pensé sur la fin du film, puisque Auteuil anime une émission littéraire, il y a Mazarine Pinjot d'invité, Mazarine Pinjot, la fille cachée de Mitterrand, et ça rappelle aussi que Mitterrand était ministre de l'Intérieur à l'époque. Voilà.
Caché à San Francisco aussi.
Aussi.
Donc pour finir, parce que la fin de Caché.
Oui, voilà, c'est ça qui en fait à la base que j'étais parti pour parler.
Parce qu'en plus, ça fait ma transition. C'est pour ça.
Voilà, la fin de Caché, en fait, il jette un pont sur qu'est-ce que va faire la jeune génération justement de ça, puisque deux jeunes, le fils d'Auteuil et une autre personne, donc pareil, je peux pas donner le nom, puisque, enfin, je peux pas dire quel est son rôle, puisque sinon ça révélerait la substance du film, se rencontrent, se parlent à la fin du film, mais on n'entend pas ce qu'ils se disent. Il y a bien un dialogue qui existe, il a bien écrit un dialogue pour l'occasion, il a toujours gardé secret. Donc on sait pas si finalement c'est également une vidéo qui serait envoyée à Auteuil, qui filme son fils avec un jeune maghrébin justement en discussion. On sait pas si ils étaient justement peut-être de mèche sur l'envoi des vidéos. Voilà, on sait pas, et Haneke laisse ces questions en suspens volontairement pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait.
Bah, y a une vision pessimiste, une optimiste.
Voilà,
en gros.
En gros, on peut avoir les deux.
On va s'écouter un morceau de discours, pareil, issu d'une commémoration de l'année dernière sur le pont Saint-Michel, avec la présence de diverses associations. Voilà, donc c'était il y a un an, jour pour jour.
C'est difficile pour nous de parler parce que il y a l'émotion, mais en même temps, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de dire et de réaffirmer que on s'appuie sur la mémoire de nos parents. Cette mémoire importante de gens courageux et dignes qui, en fait, pourquoi ils ont été ce jour-là à Paris, de Nanterre et d'ailleurs, c'est tout simplement pour avoir le droit d'exister, d'avoir le droit de dire, d'être libre. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir s'exprimer. Et comme disait Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que de nous référer à cette histoire pour pouvoir continuer à vivre, je dirais, dignement et dans une existence de rassemblement en même temps. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pour nous aussi ce qui est important, au-delà de cette mémoire, c'est la question de la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas la repentance. C'est pas ça qu'on demande, et le peuple français n'y est pour rien. Ce sont des politiques qui, à l'époque, ont mis ce massacre en place, et notamment sinistre Maurice Papon. Eh bien, c'est à cet homme-là et à d'autres qui lui ressemblent que nous combattons. Et donc, ce que nous demandons aujourd'hui, puisque nous sommes devant un lieu symbolique qui est la préfecture, c'est qu'il y ait une véritable reconnaissance de l'État. Une reconnaissance qui permettra un apaisement, qui nous permettra de vivre tous ensemble dans nos différences et aussi nous permettre de nous projeter positivement. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. Il y a évidemment des plaques comme celle-ci et je dois, rendre aussi un hommage à la municipalité de Nanterre pour avoir mis cette plaque et aussi au combat important du milieu associatif pour qu'elle soit mise. Aussi rendre hommage pour, effectivement, nous saluons le projet qui est de mettre en place un boulevard 17 octobre 1961. Je crois que c'est important pour le souvenir, pour la mémoire. Et enfin, je dirais aussi que tout passe par la culture et l'éducation. Parce que ce qui est important, c'est que ce soit inscrit dans les manuels scolaires, que les enfants... Parce que cette histoire, c'est l'histoire de France. Et c'est important de ne pas cacher une partie de l'histoire de France. Et enfin, le troisième point que je voulais dire, qui me semble extrêmement important, parce que nous ne sommes pas pour une mémoire du pathos. Nous sommes pour une mémoire positive qui nous rassemble et qui nous donne l'énergie de continuer à combattre. Par exemple, le libéralisme sauvage qui existe actuellement et qui nous ruine. Eh bien, pour qu'il y ait un devenir politique, je crois qu'il faut que nous nous inscrivons dans cette mémoire, parce que c'est une mémoire de lutte. Hein, tout à l'heure, il a été référencé le PPA, le Parti du Peuple Algérien, qui a été créé à Nanterre. Et je dirais, pour nous, c'est important parce que ça s'inscrit dans une histoire de lutte. Et c'est dans cette histoire de lutte commune, aussi de lutte sociale. Parce que nos parents, certes, ils ont été aussi pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exister contre le couvre-feu inadmissible, mais aussi contre les conditions inadmissibles sociales dans lesquelles on les mettait, dans lesquelles le patronat français les exploitait. Eh bien, je dirais simplement que pour cela, il faut continuer à exister politiquement, mais il faut qu'on se rassemble dans nos différences le plus largement possible et qu'on arrive à se respecter, à être de véritables partenaires. Tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit de s'exprimer et d'être de véritables partenaires. En tout cas, c'est notre souhait et je pense qu'on tentera de continuer dans ce sens.
Voilà donc un extrait du discours de commémoration de l'année dernière à Paris, sur le pont Saint-Michel. Thibaut, Jean-Pierre, un dernier petit mot.
Pour annoncer, demain, il reste des émissions qui vont parler du 17 octobre. Il y a l'honneur du prolétariat, donc à 18h, 18 à 19h, avec Jean. Hein. Et puis Bistantlac, 20h, 21h aussi, sera consacré au sujet à travers la mise en scène, la lecture d'une pièce de théâtre. C'était un 17 octobre de Christine Prati-Belmoltar. Et puis, ben pour les gens qui voudraient en entendre plus ou en réentendre, à partir de 22h, toute la nuit jusqu'à 8h du matin, un programme spécial sur Radio Canu, en commémoration de cette répression policière des manifestations de ce jour-là, il y a 50 ans, jour pour jour, nuit pour nuit, on peut même dire.
Voilà, donc on va se quitter juste avec, voilà, petit zapping, des phrases bien actuelles, et voilà, j'en dis pas plus, mais méditez-le simplement. Merci à Jean-Pierre, beaucoup de ses interventions.
Merci de votre accueil.
Et de sa présence. Et puis, bah, pour nous.
Bah, du coup, la semaine prochaine, dimanche prochain, on en reparlera un petit peu, puisque, comme entre temps, je risque de voir les films qui vont sortir. Un sur le deuxième, si je peux, j'essaierai. Donc, du coup, on en retouchera un petit peu de mots la semaine prochaine, avant c'est de reprendre. Des activités plus hip-hop.
Allez, je vous laisse avec ça. À bientôt, bonne semaine, et puis continuez la lutte.
En France, il y aurait entre 400 et 600 000 Roms ou Tziganes. Tous sont scandalisés par les propos de Nicolas Sarkozy qui a demandé.
Des Roms.
On se faisait passer pour des handicapés.
Des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie,
Mieux être dans un grand champ, avec de l'herbe, où c'est qu'on puisse allumer un feu, faire la musique, jouer de la guitare, manger dehors.
Des Roms.
Il n'était pas possible d'ouvrir les fenêtres. Non, on avait à peu près, disons, un mur beige comme ça, était couvert le soir, dès qu'il faisait jour, il était noir de mouches.
C'est extrêmement grave.
Le gouvernement a décidé de s'attaquer aux campements en situation irrégulière, ici dans le sud de la...
Assister à de nouveaux démantèlements de campements illégaux de gens du voyage.
Les reconduites d'étrangers.
Dans la mesure où les gens souhaitent rentrer chez eux, oui, c'est positif.
Ces populations.
Les Roumains.
Les Roms, ils...
Gens du voyage.
Sont expulsés de France.
Roms ont été évacués.
Expulsion des Roms.
Le problème risque de prendre de l'ampleur d'ici.
Dans quel monde vivons-nous ?
Le 6 juin 2010, il y a un peu plus d'un an, l'ancien ministre avait été condamné à 750 euros d'amende pour des propos outrageants envers des personnes d'origine arabe. On l'apercevait dans une vidéo avec un jeune militant UMP d'origine algérienne et il disait « il en faut toujours un, lorsqu'il y en a un ça va, c'est lorsqu'il y en a beaucoup que cela pose problème ». Brice Hortefeux avait expliqué que ces propos visaient les Auvergnats, une explication que n'avait pas retenue la 17e chambre correctionnelle. Il faudra attendre avant d'en savoir un peu plus puisque la décision du jour devrait être mise en délibéré à plusieurs semaines. Quant à Brice Hortefeux, il ne devrait pas commenter cette affaire. Il est aujourd'hui à Strasbourg, au Parlement.
Dans quel pays sommes-nous ?
Nous procéderons à la reconduite quasi immédiate des Roms en direction de la Bulgarie et de la Roumanie.
On apprend aujourd'hui que ont été admis à voter des mineurs âgés de plus de 16 ans, dès lors qu'ils étaient adhérents au Parti Socialiste, ou même des étrangers, dès lors qu'ils étaient adhérents au Parti Socialiste. Alors c'est quand même quelque chose d'extrêmement surprenant, et je ne peux pas, pour ma part, m'empêcher de rapprocher d'ailleurs cette pratique que nous découvrons aujourd'hui, et qui est une espèce de mystification, j'ose le mot, d'un certain nombre d'écrits théoriques qui sont fournis en particulier par l'association Terra Nova, qui se targue d'avoir été l'inventeur des primaires et qui prône ouvertement le vote des étrangers, la naturalisation de davantage d'étrangers pour qu'il y ait plus de personnes qui votent pour le Parti Socialiste.
Jusqu'à quand, combien de temps le ghetto restera-t-il aussi patient?
Jusqu'à quand, combien de temps le ghetto restera-t-il aussi patient?
Jusqu'à quand, combien de temps le ghetto restera-t-il aussi patient?
Jusqu'à quand, combien de temps?
Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire? Combien de temps encore sans rien faire?
Y'en a qui sont jamais dans la merde. Souvent ceux-là qui nous dirigent et qui nous...
seule là, avec des chelles et de regrets ou chelles. ناني على الجثوى فعلا.